les ateliers d'Evaluna, l'émission qui écrit à vos oreilles.
Écrit libre.
En mars se déroulent les semaines d'éducation contre les discriminations. Voici notre deuxième épisode spécial anti-discrimination. Il y sera question de respect. En 1965, le roi de la soul music, Otis Redding, entonne sur toutes les scènes du monde la fabuleuse chanson « Respect ». Si talentueux, Otis, si irrésistible la chanson. Tant pis si les paroles sont un tantinet macho.
Tout ce que tu veux, tu l'as, chérie. Et tout ce dont tu as besoin, tu l'as, bébé. Tout ce que je demande, c'est un peu de respect quand je rentre à la maison. Fais-moi du mal, chérie, si tu veux. Tu peux me faire du mal, chérie, quand je suis pas là. Mais tout ce que je demande, c'est un peu de respect quand je rentre à la maison.
Cet appel au respect ne reste pas sans réponse. La jeune chanteuse de rhythm and blues, Aretha Franklin, renvoie la balle au grand Otis en reprenant à sa façon la chanson. En 1967, la chanson Respect devient alors un hymne féministe et un hymne pour l'égalité. Pourtant, Aretha Franklin n'a pas tellement modifié les paroles de Respect. Elle a juste retourné la situation. La chanson « Respect » peut devenir le symbole du combat contre les inégalités quand chacun a droit au respect. Pas si facile à dire, encore moins à réaliser. Accepter la différence, c'est bien. Enfin, mieux que l'inverse. Mais avoir conscience de nos différences et pas de nos similitudes, de nos identités, et pas de nos appartenances à la même humanité, génère forcément une vision déséquilibrée du monde. L'un fait ci, l'autre fait ça, l'un est plus, l'autre est moins. L'un est en haut, l'autre en bas, l'un est fort, l'autre faible. Si l'on va par là, l'un vaut sans doute mieux que l'autre. Si on pousse un peu le raisonnement, l'autre a-t-il vraiment de la valeur ? Quand l'inégalité est acceptée comme une évidence, l'humanité de l'autre est parfois niée, ignorée, oubliée au profit des intérêts et délires de puissance de quelques-uns.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur.
Parce que chez Mademoiselle Sylvie, on dit toujours « Oui !» À ce propos, Mademoiselle Sylvie, j'ai rempli ma carte de fidélité.
Déjà, Monsieur Groin ?
Est-ce que je peux avoir...
Une petite Guadeloupéenne ?
Une petite Serbe.
C'est vrai que c'est tendance en ce moment.
Il paraît qu'un lot de petites Russes arrive.
C'est vrai.
Et vous ? Vous prenez combien ?
On verra ça plus tard, Monsieur Groin.
Mais qu'est-ce que vous faites ici, Groin ?
Je discute affaires avec votre fille.
Oh, justement, en parlant affaires. Savez-vous que l'on ne parle que de vous en ville? Et Monsieur Groin par-ci, et Monsieur Groin par-là. Vous êtes devenu une personnalité très en vue, grâce à votre commerce du bois d'ébène.
Vous avez raison. Savez-vous que je contribue à la grandeur de l'État? De mon cabinet, je donne des ordres à Surat et au Caire. Je contribue au bonheur du monde. Certains mécréants accuseront mon commerce comme ce Voltaire là, ou ce Montesquieu.
Ce ne sont pas des mécréants.
Qui sont-ils ?
Ce sont de grands philosophes.
Eh bien moi, Groin, si j'avais à soutenir le droit devant vos grands philosophes que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voilà ce que je dirais. Les peuples d'Europe ont exterminé ceux de l'Amérique et ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres.
L'extermination du peuple d'Amérique justifie l'esclavage du peuple d'Afrique ?
Mademoiselle Sylvie, vous aimez le sucre ?
Le sucre ?
Allez donc expliquer aux nobles que le sucre va augmenter. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves.
Votre sucre a goût de sang.
Ceux dont il s'agit sont noirs, depuis les pieds jusqu'à la tête. Ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, et mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir.
Ah, parce qu'ils n'ont pas d'âme, les noirs ?
Où est votre âme, Groin ?
On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde...
Ça n'a jamais été prouvé.
...étaient d'une si grande conséquence qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux.
Les hommes roux comme nous ?
Tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. Une preuve que les nègres n'ont pas de sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez des nations policées, est d'une si grande conséquence qu'il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes.
Pourquoi ?
Parce que...
Parce que quoi ?
Parce que... Si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire...
Que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens ?
De petits esprits comme vous exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains. Car si elle était telle qu'ils le disent, Ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe qui font entre eux tant de conventions inutiles d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ? Bon, sachez que c'est moi dont on doit avoir pitié. À chaque commerce, je risque ma fortune. Sur la dernière longue traversée sur l'Africain, 80 nègres sont arrivés à port couverts de pustules. Bon, ne parlons pas de mon autre navire, le Saint-Jacques. Sur le Saint-Jacques, 47 esclaves ont eu les boyaux mangés par les vers. Dans un autre de mes navires, le capitaine a dû jeter aux requins un quart de sa marchandise. Bon, sans parler des suicides collectifs, des rébellions, des pirates. Et le pire, c'est que mes propres marins sont touchés.
Et le pire, c'est que des êtres humains sont touchés.
Sur le menton, 21 hommes d'équipage.
Des milliers d'esclaves.
Sont morts.
Sont morts. Moi, si un jour j'ai un enfant, je lui casserai les membres avant qu'il ne soit grand. Je ferai mon possible pour lui donner du pain le restant de ma vie, pourvu qu'il ne soit pas comme vous, Groin, pourvu qu'il ne fasse pas le commerce d'êtres humains et parte sur les mers pour la conquête des hommes noirs.
Des quoi ?
Des hommes noirs.
Des sales nègres qui puent. Et le plus scandaleux est que lorsque l'on veut donner aux nègres un peu d'aisance, on les ramène en métropole où ils sont très bien traités. Mais je dois dire que leur nombre croît dangereusement. Certains ne se sentent même plus du tout esclaves et profitent de leur situation privilégiée pour en user sans modération. La nuit, un grand nombre d'entre eux troublent le sommeil des honnêtes gens par leurs cris et leurs querelles. Il faut relater ce risque au roi afin qu'il fasse des lois pour maintenir l'ordre moral. Le monarque doit changer sa justice en vérité, pour le bien de tous. C'est ainsi qu'il a examiné, statué et ordonné le code noir. Édit du roi touchant la discipline des esclaves nègres. Mademoiselle Sylvie, vous qui aimez lire, écoutez l'article 28. Et quant aux excès et voies de fait qui sont commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échoit.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit bravo tous à la même cadence.
Monsieur le directeur de la Banque mondiale, je suis Yali, chef d'une tribu de Nouvelle-Guinée. J'ai entendu parler de la Banque mondiale à Washington comme de la plus importante, la plus riche et puissante banque du monde. Les chefs de tribu m'ont envoyé chez vous parce que nos villages manquent de nourriture, d'eau potable, d'écoles, d'hôpitaux. Je ne suis qu'un pauvre sauvage inculte, mais pour accéder à ces richesses, je suis prêt à me soumettre à vos rites d'initiation.
CAC 40 en hausse, euro contre yen, cours du dollar, Wall Street, pétrole, valeur japonaise, dollar.
Son langage est trop au-dessus du commun des mortels, donc je vous traduis sa pensée profonde en langage familier. Notre banque prête partout dans le monde des dollars contre des marchandises, afin de permettre aux pays amis d'investir où nous voulons, quand nous voulons, produire ce que nous voulons avec les moindres contraintes sociales.
Rendement des emprunts, matières premières, dollars, marché monétaire, prix de l'or, dollars.
J'ai traduit. Pour emprunter, vous devez créer plus de concurrence sur les marchés, rendre votre argent plus attractif, c'est-à-dire les dévaluer. Nous achetons votre maigre magot à un prix très bas et en échange, nous vous prêtons des dollars. Il ne faut rien donner gratuitement. Tout doit se payer.
Et les vieux, les malades, les enfants, les handicapés, eux, ils ne peuvent pas payer. Émetteurs SICA, fonds de placement, accord, marché, finance, dollars, prix à la production, dollars.
J'ai traduit. Monsieur le directeur aimerait mieux connaître votre peuple. Pour cela, il aimerait vous voir chanter et danser selon vos coutumes ancestrales.
Ça me paraît l'expression d'un flagrant mépris colonialiste. Mais si c'est indispensable, je m'exécute. Voulez-vous m'accompagner, mademoiselle ?
Yali exécute une danse rituelle avec la secrétaire qui, charmée, l'embrasse avec fougue.
Ah, c'est sauvage. Quelle énergie cachée. J'essuie toute une sueur.
Le pouvoir de séduction de cette danse sur certaines femmes a déjà fait ses preuves.
Produits de base, chimie, énergie, dollars, commerce, distribution, dollars, dollars, dollars.
J'ai traduit. Monsieur le directeur est ravi de voir un bon sauvage comme vous se trémousser. Cela l'a beaucoup amusé. Il adore les gens des tribus. Il les trouve naïfs, incultes, dociles, cuits à point, comme il aime dire.
Je vois, je vois. Me mettre à danser pour votre directeur est aussi ridicule que son langage, et il voudrait que je lui brade tous mes biens en échange d'un prêt que je ne pourrais pas rembourser.
Et pourtant, la plupart des habitants de la planète n'a pas le choix et acceptent ces conditions sans sourciller.
Et vous, mademoiselle, avez-vous le choix ?
Le choix ?
Ça ne vous embête pas de passer toutes vos journées à côté de cette momie ? Avez-vous le choix de vos pensées, de vos opinions, de vos envies ?
Non, non, non. Non, vous avez raison. Je n'en peux plus de ce travail. Mais c'est mon travail. Que pourrais-je faire d'autre ?
Le monde est plein de choses à faire utiles et intéressantes. Par exemple, où déjeunez-vous ce midi ?
Oh, je ne sais pas si je dois, si je peux. Je déjeune à la brasserie juste en face à midi pile.
Ça te dirait d'y aller ensemble ? J'aimerais te faire connaître quelques copains. Ça te plairait de défendre une autre cause ? Défendre une économie solidaire, un développement économique et social qui prenne en compte l'émancipation des femmes et des hommes ?
Je ne sais pas.
Entendez-vous ce grondement ? Ce sont les manifestants qui s'approchent de la Banque mondiale. Ces messieurs qui agissent dans l'ombre comme Dracula n'aiment guère la lumière du jour. Pour les mettre hors d'état de nuire, il suffit d'étaler au grand jour ce qu'ils manigancent dans le plus grand secret.
Oh, il faut que je mette mon patron au courant.
Ne réveillez pas l'homme. Si vous le prévenez, nous serons chassés par la police. Nous irons en prison. Laissez approcher les manifestants. Ils cherchent seulement à s'exprimer démocratiquement. Notre combat dépend de chacun de nous. Notre combat dépend aussi de toi.
Ah, je comprends. Vous n'êtes pas un pauvre sauvage. Vous êtes venu ici exprès pour piéger les directeurs.
Exactement. Rejoins-nous. Ne gaspille pas ta vie. Ne te résigne pas. Résiste à l'idée d'un monde basé seulement sur le profit.
Yali, aidé par la secrétaire, enferme le directeur dans une poubelle sur laquelle est écrit « Destination paradis fiscaux ».
Peuple du monde entier, unissons-nous pour défendre nos droits, pour la liberté, l'emploi, l'éducation, contre l'hégémonie du capital, la destruction des cultures, le monopole des savoirs, la dégradation de la nature causée par les multinationales, le FMI, la Banque mondiale. Notre futur sera ce que nous en faisons. Notre futur n'appartient à personne.
La notion de différence, si elle n'est pas équilibrée par le sentiment de fraternité, d'appartenance à une même humanité, engendre la discrimination. Celle-ci n'est pas toujours issue d'un sentiment de supériorité, du moins pas consciemment. Certains pratiquent un mode de discrimination moins vertical, l'exclusion. Le concept n'est pas celui de l'inférieur et du supérieur, mais celui du dedans-dehors. L'autre est différent de nous, il ne fait pas partie de notre cercle. Donc, dehors. Mur, clôture, indifférence, rejet, exil, mise à l'écart. Le jour jours après l'été où la petite fille poussa enfin la grille de l'école, elle n'avait pas compris du tout de quoi il s'agissait. Malgré la main dans la sienne, elle trébucha, heurta des cartables et marcha sur des lacets encore blancs. Leur troupeau montait par un escalier à haute marche, tandis que déjà des parents descendaient, dépouillés d'enfants par l'escalier en face. Une sonnerie précipita les pas alentour. La petite fille était parvenue dans une classe gonflée de casiers. Aussitôt, ses doigts curieux s'en allèrent pour attraper une boîte à chaussures barbouillée en rouge. Sa main ne dit aucun bonjour ni au revoir. Le plus urgent était de saisir cette boîte à chaussures posée presque à sa portée sur l'étagère. La porte se ferma sur les derniers parents. La petite fille n'entendit pas. Elle venait maladroite de happer la boîte très lourde et fit pleuvoir sans perles plastiques sur le lino. Une voix dit aux 30 enfants de s'asseoir. 29 s'abattirent sur des petites chaises en bois toutes semblables. « Viens t'asseoir !» insista la voix étonnée un ton plus haut. Pourtant, ses paroles se perdirent. Rien ne se passait. Rien entre les mots et la petite fille rêvant sur des perles interdites, chantonnant dans un univers présentement occupé par des boîtes à chaussures. On l'attira donc par le bras pour l'installer sur sa petite chaise au milieu des autres. La petite fille n'avait montré aucune résistance à s'asseoir. Un peu d'agacement, c'est tout. Resta 10 minutes à tâter les jeux de construction, à saisir un cube après l'autre, à les jeter par terre, pendant que les autres s'essayaient à construire des maisons. Tous ces cubes avaient rejoint le sol quand elle se sentit mal. Mal. Enfermée dans cette pièce dont elle ne connaissait rien, sinon la couleur jaunâtre, la porte close et un tableau noir au signe mystérieux, elle se leva. « À ta place !» dit la voix tout près. Nez à nez avec la maîtresse, la petite fille posa enfin les yeux sur elle, lui sourit. Seulement, elle ne l'entendait pas. Les mots lui parvenaient, comme le bruit d'une cascade sans lui faire perdre le fil de ses propres pensées. De temps à autre, un son plus fort, la voix grognassait, venait la déranger, et la petite fille tournait la tête ailleurs. « Il faut obéir à la maîtresse !» assurait la femme. Ce titre n'éveilla aucune lueur honorable dans les yeux impatients de la petite fille, prompte à se dégager pour attraper la boîte bleue. Les perles carrées et plus petites que celles de la boîte barbouillée en rouge s'éparpillèrent sans rebondir. Des rires minuscules traversaient la classe, mélangés à des pleurs. La maîtresse vérifia l'ordre de ses vêtements, contourna incertaine la petite fille à quatre pattes, alla vers un enfant pleureur auquel elle parla doucement. Sa maman viendrait bientôt, ils allaient faire des jolis dessins, chanter, jouer. L'enfant renifleur la crut sur parole. La maîtresse, soulagée d'être écoutée, récupéra sa morgue. Remit en place une qui se balançait sur sa chaise, demanda de ramasser les jeux, car c'était l'heure du lait. Ensuite, on irait en récréation. Les cubes regagnèrent la boîte métallique. Douceur et fermeté, l'autorité magique opérait. Revigorée par ses succès, la maîtresse se retourna vers la petite fille qui malaxait une grosse éponge. « Viens ranger avec les autres !» Au fond, elle n'attendait déjà plus de réponse, n'en eut aucune. La petite dégoûtante portait l'éponge ovale à sa bouche. La petite fille sourit à tout hasard et tourna le dos. Alors, la maîtresse, mal entendue, se mit à rejeter l'indocile de toutes ses forces. Ce n'était pas une antipathie, seulement elle voulait la voir disparaître. Ce ne fut d'abord qu'une nostalgie. Elle rêva, à reculons, d'une classe où la petite fille ne serait jamais entrée. Elle rêva d'une petite fille un peu empaillée, immobile, inoffensive, ratatinée sur sa désobligeante indifférence. « Qu'elle s'en aille n'importe où, je ne veux plus la voir !» Honteuse de si mauvaises pensées, la maîtresse planqua ce genre de méchanceté à un endroit de ses bas-fonds où on ne le retrouverait jamais. Elle se sentit ouverte et tolérante, se sourit. Sourit à la classe, une classe normale à peu de choses près. Jeta un regard de dédain sur la petite fille, la plaignait. Dommage pour elle. Fallait que la petite importune disparaisse. Cette nécessité devenait de plus en plus précise et objective. À midi, la maîtresse se regardait dans une glace. Le front demeurait plissé. C'est clair ce que je dis. Elle devrait comprendre. Un enfant normal écoute, se le tient pour dit. Pas normal. Ce mot réconcilia la maîtresse avec elle-même. À faire classer, traiter la petite folle comme telle, comme un cas pathologique, reprit-elle avec plus d'indulgence, ou la peur des mots tout nus. Prendre des mesures, régler le problème, n'a pas sa place ici. La mettre ailleurs, et tout de suite, avant que la classe n'en pâtisse, pour son bien. Discrimination verticale et discrimination horizontale sont souvent mêlées. Celui qui exclut est souvent dominant. Celui qui érige les murs méprise ceux qui se trouvent de l'autre côté. Il n'est pas de forme de discrimination moins violente qu'une autre.
Dis, c'est quoi la discrimination ?
Je sais pas trop, mon petit. T'es trop petit pour comprendre. Écoute un peu. Au début, faut pas trop se distinguer. Faut se faire tout petit, puis courber les chines. Raser les murs, puis devenir invisible. Être bien poli, puis être bien soumis. Connaître la honte, puis s'excuser toujours. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Ça donne envie de disparaître. C'est surtout un cri, ce cri de révolte qu'on étouffe. Ce cri de souffrance, car on t'écarte, on t'empêche. Un vrai cri, car il arrive même qu'on t'enferme et te batte. Mais c'est un crime, il faut l'écrire. Oui, mon petit. T'es pas trop petit pour comprendre, alors. Mais, tu sais, ça commence mine de rien. Oh, il a une drôle de mine, une bobine bizarre. C'est d'abord minable, puis de plus en plus violent. La domination des plus forts devient loi. Ça gagne la nation entière. Alors, il n'y a plus d'espoir ? Si, si, mon petit, c'est dur d'y croire. Mais accroche-toi au bastingage, au radeau des illusions jamais perdues. C'est pas fastoche, tu l'as compris. Il y a des justes, des jeteurs d'alerte, des attentifs, des humanistes, qui te tendront un regard, une main. Saisis cette pogne solidaire de toutes les causes perdues. C'est à coups de regard, de main tendue, que nous referons le monde. Il faut y croire, mon petit.
Vous venez d'écouter les ateliers d'Eva Luna. L'émission qui écrit à vos oreilles.
Écrit libre.
Vous venez d'écouter un texte extrait de Heure noire de Chantal David, dit par elle-même et Jean Tauvet. Un extrait de Yali de Diana Vivarelli, dit par elle-même et Jean-Luc Alliot. La petite fille, extrait de La norme de Sylvie Bauger. Dit par Marie-Jeanne. Dit, c'est quoi la discrimination ? De Muriel Becquet, dit par elle-même. Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauget. Réalisation technique, Luc Richard. Voix, Marie-Jeanne.